Moi, quand j'ai commencé à travailler en 2004, je m'en sortais bien mieux que maintenant. Petit à petit, je me suis retrouvé à faire des missions intérim, de plus en plus rarement, parce qu'il y avait il y en avait de moins en moins. Et petit à petit, j'ai vu mon niveau de vie baisser. J'en suis même arrivé à... Maintenant, j'ai même plus d'appartement, je vis sur un terrain dans une caravane.
Tu fais d'intérim dans quoi, alors?
Moi, c'est dans le bâtiment. Dans le bâtiment, un petit peu dans tous les domaines, puisque moi j'ai passé à la base j'ai un bac électronique, j'ai jamais trouvé de travail là-dedans, j'ai passé un CAP de charpente pour me reformer dans autre chose, et puis j'ai pas trouvé non plus d'emploi en charpente, donc j'ai été embauché en maçonnerie, puis la boîte a eu du mal, donc j'ai été licencié avec d'autres, et puis mission intérim après mission intérim, et la descente petit à petit, la descente aux enfers quoi.
La descente aux enfers et une parole de Gilets jaunes dans Je veux du soleil, un film de Gilles Perret et François Ruffin, sorti en avril dernier. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la désindustrialisation, est-ce vraiment de l'histoire ancienne? Dans La France qui déclasse, l'historien Pierre Vermeeren replace les Gilets jaunes dans le fil de l'histoire. Désindustrialisation, déshumanisation, déqualification. Ce spécialiste du Maghreb, professeur à Paris 1, revient sur l'échec des politiques publiques en France depuis 40 ans, ayant entraîné le sentiment de déclassement à l'origine du mouvement et analyse la défiance des Français envers leurs élites. Le réel méprisé finit par se venger, prévient-il. Bonjour Pierre Vermeeren.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous ouvrez cet essai sur ces mots de Balzac. Il y a deux histoires, l'une que l'on enseigne et qui ment, l'autre que l'on tait parce qu'elle recèle l'inavouable. Dans cette séquence des Gilets jaunes, beaucoup de silence pour vous ou de contre-vérité? C'est ça qui a motivé l'écriture de cet essai?
Non, je crois que ça vient de beaucoup plus loin. Je suis originaire d'une région industrielle que j'ai vu décliner par décennies, je dirais, hein, une longue histoire. Et donc la belle histoire, c'est celle de la mondialisation heureuse, avec l'euro, la libéralisation des services publics, la facilité de circuler, les low cost, etc. Et puis l'histoire un peu cachée, c'est les conséquences sociales et sociologiques, c'est la transformation du modèle industriel et du modèle économique et productif en général, avec bien sûr des conséquences sociales qui ont été gommées ou qui ont été effacées parce qu'on a une machine qui est très redistributive et qui a compensé progressivement les baisses de revenus par des allocations, mais au bout d'un moment, le système craque, comme on l'a vu l'année dernière.
Tous les signaux étaient dans le rouge, au rouge, et on aurait regardé venir la crise, en fait.
Oui, vous savez, il y a beaucoup d'économistes depuis très longtemps qui ont des expressions parfaitement connues, comme la préférence française pour le chômage... Bon, c'est une expression qui a 30 ans aujourd'hui, ou 20 ou 30 ans, vous voyez, donc j'ai pris la période de 40 ans me paraît assez intéressante, hein. Faut pas oublier qu'en mai 68, la révolte a une des causes, une des circonstances sociales ou sociologiques de la révolte, c'était que le chômage atteignait les 400 000, hein. On est aujourd'hui à plus de 6 millions de personnes, bien sûr ça n'a pas été linéaire, mais en gros on voit quand même qu'il y a un trend ou une ligne de croissance ininterrompue, parce que justement, des millions d'emplois ont été supprimés dans le secteur productif et bien sûr par voie de conséquence dans les autres secteurs, notamment la petite distribution ou l'artisanat.
Alors économiste, vous ne l'êtes pas, historien en revanche, oui. Ce qui vous autorise à replacer cette histoire, ce mouvement des Gilets jaunes sur un temps long, et notamment celui des politiques publiques, et notamment sur celui de la France industrielle ou désindustrialisée, qui est au cœur de cet essai. Juste encore un mot à l'historien, vous avez choisi de sous-titrer cet essai « La France qui déclasse, les Gilets jaunes, une jacquerie au XXIe siècle ». On recevait ici même Gérard Noiriel, qui nous disait que c'était pas le terme pour lui le plus approprié. Qu'est-ce qu'il y a de la jacquerie? Qu'est-ce qui relève de la jacquerie pour vous dans cette révolte, Pierre Vermeeren?
Alors, bien sûr qu'on n'est plus dans une société monarchique ou aristocratique. On est dans une société démocratique. On est dans une république qui a une longue histoire. Mais disons que beaucoup d'observateurs ont pointé le fait qu'il n'y a jamais eu un événement de cette nature qui s'est opéré depuis très longtemps. Au XIXe siècle, il y a eu des révolutions en France qui ont presque tout eu pour épicentre Paris, notamment le peuple ouvrier de Paris. Mais une révolte comme ça, décentralisée en quelque sorte, parce qu'elle est née vraiment dans les anciennes zones en reconversion ou dans les zones de ce qu'on a appelé la France périphérique, assez décentralisée, assez inorganisée. Et c'est cette inorganisation, moi, qui me paraît, d'abord les violences, hein, parce que les jacqueries c'était violent. Là, on a quand même des violences, puisqu'il n'y a pas de cadre syndical, il n'y a pas d'encadrement, donc on a vu que ça a donné lieu à de très nombreux débordements. Il y a quand même eu 11 ou 12 morts, même si ce ne sont pas les forces de l'ordre qui ont procédé à ces blessures, ou à ces, en tout cas pour les morts. Mais en revanche, l'incapacité à s'organiser politiquement me fait penser à ça. Il n'y a pas de prise en charge par un parti, il n'y a pas de prise en charge par des syndicats. Alors bien sûr, il y a des tentatives de récupération que tout le monde a vu, que tout le monde connaît, mais résultat 0,5 ou 8% aux élections européennes, parce que c'était pas un mouvement qui avait une vocation politique, c'est un mouvement qui avait une dimension protestataire, non encadrée, non organisée, et ça évoque à l'historien effectivement les jacqueries d'Ancien Régime, avec toutes les limites du modèle.
Les limites où vous dites que c'est une révolte sans équivalent historique récent en tout cas, mais peut-être quand même deux précédents, les Bonnets Rouges et Notre-Dame-des-Landes. Quel signal était déjà envoyé avec ces deux actualités, ces deux événements-là?
Oui, ces deux événements qui se sont déroulés à l'époque du quinquennat de François Hollande. Écoutez, dans un sens, le Notre-Dame-des-Landes, ça a donné lieu à des violences qui se sont concentrées, qui ont remporté la victoire. C'est-à-dire que le signal qui a été envoyé, c'est de dire finalement la violence paye. La violence paye contre la légalité juridique, alors évidemment qui met 40 ans à accoucher d'une décision, contre le référendum local, même s'il avait été organisé dans des conditions un peu particulières. La violence paye. Et puis les Bonnets Rouges, qui se sont déclenchés à peu près au même moment, avaient donné une sorte de signal aussi de la révolte, avec un mouvement interclassiste né en Bretagne, mais avec des répercussions sur tout le territoire, puisque très vite on a vu brûler des péages, les nouveaux péages en question sur toutes les autoroutes. Et là aussi, le gouvernement a reculé. Je ne dis pas bien sûr qu'il ne devait pas reculer, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que ces précédents à la fois inorganisés, spontanés, violents, ont été comme des répétitions d'un mouvement qui a été nationalisé quelques années après.
On sent que vous avez été, vous, Pierre Vermeeren, curieux de cette occupation par les Gilets jaunes des ronds-points. Vous parlez d'un hommage fait par les Gilets jaunes à ces places françaises, bien françaises, et à un de ces clins d'œil dont l'histoire a le secret. Dévoilez-nous ce secret.
Écoutez, le secret, c'est que la France, en 30 ou 40 ans, s'est couverte de ronds-points. Supprimant la priorité à droite, à la française. On a copié un peu nos amis anglais, on les a même surclassés, et les collectivités locales ont inondé la France de ronds-points. Alors un rond-point, c'est pas de la poésie, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros. Il y en a aujourd'hui au moins 20 ou 30 000 en France, je vous laisse faire le calcul. Ou peut-être 40 000 même, tout le monde n'est pas d'accord parce qu'il faudrait les compter, c'est un peu compliqué. Et finalement, cet investissement des collectivités locales parmi d'autres, parce que quand il y a un rond-point, généralement il y a une rocade, enfin quand il y a 10 ronds-points, il y a une rocade, il y a des échangeurs, il y a les zones industrielles et artisanales, industrielles entre guillemets, et artisanales et commerciales qui vont avec. Et voilà, donc on a vu les collectivités locales, depuis qu'elles ont semi-liberté, je dirais, depuis les lois de décentralisation, investir massivement dans ces équipements qui ont transformé complètement le paysage français, notamment autour des villes et des petites villes et des agglomérations. Eh bien, c'est une conséquence de l'investissement improductif que la France a réalisé depuis 40 ans. Et finalement, on pourrait dire, si on était très cynique et si on aimait les raccourcis, que les ronds-points ont remplacé les usines. Et donc, c'est normal que les Gilets jaunes terminent sur les ronds-points, puisque finalement, c'est ce qui reste de l'investissement public. Voilà, ironie de l'histoire. Alors, c'est un peu rapide, mais en même temps, c'est quelque chose qui ne pouvait pas exister dans les périodes antérieures. Avant, il y avait des petits carrefours, souvent charmants. Et puis maintenant, il y a ces grands ronds-points qui sont, comme vous dites, des places, qui sont devenues des places publiques et qui ont été le lieu de cette manifestation au long cours.
Dans La France qui déclasse, Pierre Vermeeren, essai qui paraît chez Talendier, vous revenez sur les causes de cette jacquerie moderne. Au-delà de son fait déclencheur, l'annonce d'une nouvelle taxe verte sur le carburant dans un contexte de fiscalité record, ce dont d'ailleurs le gouvernement semble avoir pris conscience, hein, avec des promesses de baisse d'impôts assez rapidement, vous revenez sur le contexte beaucoup plus large qui aurait permis aussi à ce mouvement à la fois d'apparaître et qui expliquerait le ras-le-bol exprimé par les Gilets jaunes. C'est d'abord pour vous un chômage de masse que 40 ans de politique de l'emploi n'ont pas réussi à résorber. Cette désindustrialisation, parce qu'il est là le nœud du problème, ainsi que les questions d'aménagement du territoire qu'on va retrouver et que vous venez d'évoquer à travers le symbole du rond-point, cette désindustrialisation de la France, c'est pas de l'histoire ancienne, c'est une réalité pour vous qui continue à produire des effets qui en somme seraient aussi responsables de la crise actuelle.
Écoutez, c'est une évidence. Depuis 40 ans, 150 emplois supprimés par jour, hein, jour férié, ouvré, etc. On a vu là que des plans de licenciement à nouveau massifs continuent d'être mis en œuvre au lendemain des élections, comme à chaque fois, je dirais. Vous savez, moi, mon éveil à la conscience politique, il date de 1983 en Lorraine, quand les gens avaient été très heureux l'élection de Mitterrand parce qu'il annonçait la reprise du charbon et de la sidérurgie, et puis 3 ans après. Ou deux ou trois ans après, la décision a été prise de fermer ces usines. Et je me rappelle, à Lorraine, toutes les sirènes de toutes les mairies, de toutes les églises, les cloches, tout sonnait. C'était lugubre. Et finalement, presque 40 ans après, on a eu un processus qui ne faisait que commencer. 2,5 millions d'emplois industriels ont été supprimés depuis. Les choses continuent. C'est normal, puisque au fond, l'État a abandonné, disons, toute ambition, toute politique industrielle, que des secteurs entiers de l'industrie française ont été abandonnés. Il faut revenir dans les années 70, on couvrait à peu près en France la totalité des gammes de produits industriels. Aujourd'hui, on s'est spécialisé sur les gammes qui sont les plus rentables et qui sont avec qui on peut faire du commerce international. On connaît très bien le TGV, le nucléaire, les avions, etc., l'armement. Tout un tas de secteurs ont été abandonnés et ça a été une sorte de grand repli. Mais ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait de manière très très lente et continue. Hein, parce qu'au fur et à mesure que des secteurs ferment, les sous-traitants ferment, et puis les sous-traitants à leur tour essayent de résister, et puis ils n'y arrivent pas. Bon, et puis de nouveaux secteurs désembauchent. Il y a beaucoup de. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les capitaux en France ont considéré, enfin les gens en tout cas qui les possèdent, ont considéré que l'industrie c'était has-been. Je vous rappelle, là aussi, des slogans des années 80, la fin du monde ouvrier, la fin de l'usine, la fin du travail, etc. Et en fait, il y a eu non pas une disparition de ces capitaux, ils ont été réinvestis dans d'autres secteurs, avec une conséquence très pratique, c'est l'abandon de tous les secteurs productifs, qu'ils soient primaires, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient même la pêche, qu'ils soient industriels. Et donc, on a des secteurs qui survivent, on a quelques secteurs de pointe qui sont très brillants à l'international, mais ça embauche de plus en plus de main-d'œuvre très qualifiée, et finalement ce qui constituait la base de la société française, la base notamment industrielle et sociale de la société française depuis l'industrialisation au milieu du 19e siècle, s'est progressivement désagrégé. Et si vous doublez ça, permettez-moi, je termine juste, si vous doublez ça par le mouvement analogue qui frappe l'agriculture, on a donc un retrait massif et des emplois qualifiés, des gens qui avaient des métiers, qui étaient insérés, qui gagner bien leur vie. Aujourd'hui, on dit que les agriculteurs gagnent 300 euros. Ça n'a pas l'air de choquer grand monde, mais c'est évidemment c'est la fin d'un système particulièrement. C'est la fin d'un processus très très long, très durable, très structurel, et donc c'est pas du tout un effet de mode, bien sûr.
De gouvernement en gouvernement, vous parlez d'un consensus idéologique bâti sur la fin du travail, mais il y avait d'abord le choix d'inscrire la France dans la compétition internationale, et cela dès les années 70, Valéry Giscard d'Estaing, 1978.
Le Conseil des ministres a examiné ce matin deux grands sujets. D'une part, la réorganisation de la sidérurgie française, et d'autre part, la création d'une zone de stabilité monétaire en Europe, ce qu'on appellerait dans le langage courant la création d'une monnaie européenne. Et à cette occasion, je voudrais vous dire ce que je cherche à faire. Ce que je cherche à faire, c'est que la France puisse gagner, que la France gagne dans la compétition internationale. Parce que je crois que c'est nécessaire pour la France et que c'est nécessaire pour les Français. Je veux dire, pour assurer dans l'avenir l'emploi des Français. Il y aura un emploi en France si nous augmentons la quantité de ce que la France produit et vend. Alors souvent, naturellement, on répond au découragement et on veut faire croire que la France n'en est pas capable. Pourquoi n'en serait-elle pas capable? Il y a à l'heure actuelle, dans notre industrie, des secteurs parfaitement compétitifs. Nous avons, vous le savez, la plus grande entreprise européenne de construction d'automobiles, désormais, et nous sommes le seul pays d'Europe dans lequel toute la production automobile est en réalité une production nationale française. Il y a beaucoup d'autres secteurs de techniques françaises qui sont actuellement les meilleurs. Il y a des petites entreprises qui sont compétitives et qui exportent. Et nous avons dans notre agriculture de larges secteurs où nous avons les meilleurs rendements d'Europe. Donc nous sommes capables de gagner.
Suivra donc la réorganisation de secteurs entiers à l'image de la sidérurgie et du secteur de l'automobile. Inscrire la France dans cette compétition, c'était pas pour vous, Pierre Vermeyron, un objectif louable?
Ça ne rajeunit pas cette citation. C'était un objectif très louable, encore aurait-il fallu s'en donner les moyens. On a voulu se faire aussi gros que le bœuf, c'est-à-dire que l'Allemagne, et finalement on s'est un petit peu dégonflé. Hein. Si vous prenez au bout de 40 ans d'évolution industrielle et économique, l'Allemagne grosso modo reste la première puissance exportatrice de produits industriels dans le monde. Elle a un excédent commercial considérable qui se chiffre en plus de 100 milliards d'euros. Et nous, on a un déficit industriel de pas tout à fait de 100 milliards, heureusement, mais autour de dépassant les 50 milliards. C'est-à-dire que au fond, les Allemands ont non seulement entretenu, conservé, modernisé leur appareil industriel, et ils ont attiré à eux la plupart des productions de pointe. Ils ont gardé, par exemple, leur secteur automobile en grande partie, tandis que nous, on l'a évacué vers certains pays du Sud, notamment. Ou de l'Est, et voilà, alors que nous, on a réduit notre appareil industriel qui entraîne la déqualification, le chômage et le déficit. Alors on a dit, c'est bien, c'est normal, on se débarrasse, comme les États-Unis dans les années 70-80, on va se débarrasser des industries polluantes, des industries lourdes, la sidérurgie, la raffinerie, la construction navale, tout ça, ça part en Asie, c'est normal. Le problème, c'est qu'en Allemagne, c'est parti en partie en Allemagne, et notamment pour les industries les plus technologiques et les plus performantes. Voilà, donc on s'est débarrassé effectivement d'un certain nombre de secteurs, on s'est débarrassé des secteurs polluants, mais on importe du coup de Chine et des pays du Sud, et puis on s'est débarrassé aussi d'un certain nombre de secteurs qui sont devenus très innovants, où on a fait faire du montage ailleurs, et résultat, la situation actuelle. Donc, c'était évidemment un match à jouer, mais encore aurait-il fallu s'en donner les moyens. On a certainement été naïfs, et puis je pense que derrière ça, si vous voulez, il y a une reconversion complète du capitalisme français. Je l'évoque rapidement dans le livre. Il y avait deux modèles capitalistes français, si je veux le dire en quelques lignes. Dans les années 60, il y avait le modèle colonial du Sud, financier, marchand, et puis il y avait le modèle industriel du Nord. Et au fond, à la fin de l'Empire, ça a été, on a encore fait du De Gaulle et de l'industriel et du colbertiste dans les années 60. Et puis, arrivé dans les années 70, on change de modèle et on se dit, on va devenir la grande puissance tertiaire, marchande, publicitaire, bancaire, financière du continent européen, avec un champ d'action considérable dans nos anciennes colonies, au Moyen-Orient, etc. Et on a abandonné l'industrie et l'agriculture. Résultat, aujourd'hui, les Pays-Bas exportent plus de produits agricoles que nous, l'Allemagne aussi, évidemment. Etc, etc.
Voilà, c'est ça que vous appelez le grand retour d'un capitalisme de type colonial. Voilà, et là, on voit l'historien qui
absolument, parce
course.
Que, vous savez, on a vu le capitalisme français s'installer au Maroc. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque de l'IOT? Ils ont construit des villes, ils ont construit des infrastructures, donc des ronds-points, si vous voulez, actualisés, des chemins de fer, des routes, quelques usines de main-d'œuvre, hein, essentiellement. Mais au fond, c'est les banques qui pilotaient l'opération. Une grande agriculture d'exportation hyper concentrée autour de quelques milliers de fermes, des cultures autour de... Voilà. Donc c'est un capitalisme rentier, c'est un capitalisme bancaire et c'est un capitalisme marchand. Et c'est aujourd'hui notre capitalisme. Avec la communication en plus, c'est-à-dire avec l'énorme système médiatique qui a été construit. Hein. Vous avez, pour ne pas le citer, un grand groupe industriel français, il y a quelques années, qui était spécialisé dans l'industrie de pointe, dans l'industrie d'armement, et son patron en a fait un groupe de médias. C'est tout à fait emblématique parce que eux, les Allemands, ils ont gardé, ils ont à la fois le média et ils ont à la fois l'industrie de pointe. Mais nous, on s'est dit, tiens, le média, la communication, la publicité va finalement rapporter suffisamment pour qu'on puisse redistribuer avec les bénéfices. Sauf que toute cette classe ouvrière et agricole parce que ça fait quand même 4 millions d'emplois supprimés en 40 ans, c'est pas mal. Si on ajoute ceux du commerce et de l'artisanat, on doit atteindre des chiffres encore beaucoup plus conséquents. C'était quand même des métiers qualifiés, c'était des gens qui travaillaient, qui avaient des métiers de pointe. Alors aujourd'hui, on ne sait plus qu'il y a des métiers manuels qui sont des métiers de pointe, mais enfin, c'était quand même des métiers de pointe à haute qualification, ne serait-ce que parce qu'il y avait des années, une vie entière ou des décennies de formation pour faire un bon artisan ou un ouvrier qualifié. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils sont finalement une forme de sous-prolétariat dans les services. Hein. C'est pas la peine d'aller très loin dans les supermarchés ou dans la restauration rapide pour voir comment ça marche. Donc ça a eu des conséquences sociales. C'est pas seulement un changement de modèle économique, ça n'a pas seulement des conséquences macro-financières sur les déficits, ça a des conséquences sociales et sociologiques. Et c'est ça à quoi on vient d'assister. C'est-à-dire les gens disent, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, et du coup, hurlent à leur manière.
Est-ce qu'on peut reprendre un autre cas pratique, autre cas concret, celui d'Alstom? On va repartir d'abord en 2014 avec ce rapprochement d'Alstom et la vente de sa branche énergie à l'américain General Electric.
Deux géants au cœur de la ville, deux usines sur un même lieu.
Ici, les locaux d'Alstom. Dans ce hangar, par exemple, la firme française fabrique des alternateurs. Sur le site de Belfort, elle emploie 2600 personnes. Et juste à côté, un bâtiment plus loin, il y a General Electric. L'Américain est installé ici depuis 1999 et fabrique à Belfort des turbines à gaz.
Si au niveau national, les syndicats sont hostiles au démantèlement d'Alstom, à Belfort, les salariés sont plus mesurés.
Pour nous, sur le site de Belfort, ça paraît le meilleur choix pour la pérennité du site.
Le produit qu'ils font et notre produit, ça se complète, donc de ce côté-là, c'est vrai que c'est un peu plus réconfortant pour nous.
Ils ont quand même un bon volume, ils ont un produit un peu similaire au nôtre, on a déjà travaillé avec eux.
De la complémentarité et quelques points communs, les salariés partagent déjà la même cantine et le même CE, mais aussi des divergences. General Electric, c'est une société américaine avec une autre culture. Ainsi, les salariés ont reçu comme consigne de ne pas parler à la presse.
Vous travaillez pour qui ?
Seuls les syndicalistes peuvent nous répondre.
La culture d'entreprise américaine, c'est la compétition entre les salariés, c'est quand même beaucoup de demandes, une demande forte sur les salariés.
Ce soir, une préoccupation pour les salariés des deux groupes, comment General Electric peut garantir l'emploi alors que ces deux dernières années, la société américaine a supprimé 200 postes à Belfort.
Voilà, suivra Pierre Vermeeren la vente de sa branche transport à l'allemand Siemens. Ça, c'est un bon exemple pour vous, Alstom, de ce que vous appelez ce capital industriel dilapidé, ce déclin industriel de la France.
Oui, je ne suis pas spécialement spécialiste d'Alstom, mais c'est vrai que c'est tout à fait emblématique d'une évolution générale dans laquelle on a bradé tout un tas de secteurs.
Volontairement.
Volontairement.
C'est ce que vous dites, abandon volontaire, oui, du secteur productif par les pouvoirs publics.
Bien sûr. Alors d'abord, les pouvoirs publics ont arrêté de faire une politique industrielle dans les années 70, en gros. Ou Midon en 83-84, pour aller jusqu'au bout. Il n'y a plus de politique industrielle. Dans un pays qui a toujours connu une politique un peu colbertiste, si vous voulez. Donc, à partir de là, le changement de modèle qui s'est mis dans les têtes, c'est-à-dire l'industrie, tout d'un coup, est apparue ringarde. Hein. Tout ce qui était productif, finalement, s'est apparu comme digne d'une économie du tiers-monde, certainement pas de notre niveau. Les Américains ont connu un petit peu ça, avec des conséquences analogues. L'Angleterre avait connu ce phénomène-là dès les années 50. 60, mais aujourd'hui elle s'est en partie réindustrialisée, un petit peu plus que nous d'ailleurs. L'Italie et l'Allemagne n'ont pas connu ces évolutions. En tout cas l'Allemagne c'est certain, et le Japon moins encore. Donc pour les pays qui ont fait ce choix, on a bradé, effectivement, on était champion dans le ciment, dans l'aluminium, etc., etc. Tout ça, ça a été vendu, rappelez-vous l'électronique aussi, Thomson, 1 euro, etc. Et finalement, Finalement, on le vend donc à des entreprises étrangères qui, elles, ont un rayon d'action mondial, qui ont d'autres intérêts, qui ont des intérêts purement capitalistiques et qui, le jour où il y a le moindre problème ou la moindre opportunité pour aller vers un marché plus rentable ou pour recentraliser, elles s'en fichent, si vous permettez l'expression, totalement de la Franche-Comté, de la Picardie ou de la Bretagne. C'est pas ça qui les intéresse. Elles n'ont pas de perspective d'aménagement du territoire, elles n'ont pas de perspective d'industrialisation de notre économie, elles ont une perspective à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale, et donc elles sont, je dirais, sans sentiment. Alors ils ont beau faire des belles promesses parce que pendant quelques années ils reçoivent des aides, des montages financiers, ils sont accompagnés par notre personnel politique qui est tout à fait heureux de les accueillir, et puis le jour, 2 ans ou 3 ans après, quand ça commence à être gênant, terminé, et il n'y a plus rien à dire. Et ça, c'est tout à fait emblématique d'un processus, encore une fois, qui n'est pas ponctuel, mais qui est structurel.
Vous pointez aussi, Pierre Vermeeren, la responsabilité des grandes lois de décentralisation des années 80. Ça veut dire que tout l'aménagement ou le réaménagement du territoire a été mis au pas de cette logique de désindustrialisation. Elles se sont faites, ces lois, aussi selon cette logique, au profit des grandes métropoles et au détriment des territoires ruraux, notamment.
Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Mais effectivement, quand l'État s'est désengagé de la politique industrielle, et parallèlement, a eu lieu le processus de décentralisation. Donc, ils se sont dit, finalement, ce sont les grands élus locaux, ce sont les grands maires, etc., qui vont avoir la main. Ces élus locaux ont mené leur politique. On a vu le phénomène des métropoles émerger. Et le phénomène des métropoles, en réalité, c'est pas tellement une décision des élus locaux. Bien sûr, ils ont leur rôle à jouer, mais au fond, le mouvement qu'on vient de décrire de désindustrialisation, il a eu une conséquence très pratique, c'est-à-dire que les cadres... Enfin, il faut bien voir que la carte industrielle, si vous prenez la carte industrielle de la France dans les années 70, c'était une carte industrielle extrêmement décentralisée. Il y avait une grosse industrie à Paris, et dans les gros bassins d'emploi, à Lyon, etc., et à Marseille, mais en revanche, il y avait des usines partout. Ces usines périphériques, pour le coup, elles ont fermé. Les cadres ont été absorbés par Paris et par les métropoles. Les ouvriers qui ont été débauchés de la région parisienne sont rentrés chez eux. Donc il y a une sorte de croisement sociologique. C'est comme ça que la France périphérique est née. C'est-à-dire que vous avez une relocalisation à la fois des cadres. Vous savez, l'Île-de-France aujourd'hui produit un tiers du PIB. Elle possède 1,5 million de cadres, c'est-à-dire 1 sur 3. Hein. Les autres métropoles en possèdent à peu près 1,5 million, c'est-à-dire qu'en gros, les 2/3 des cadres aujourd'hui sont dans une douzaine de villes, ou de 10-12 métropoles, et la production en termes de PIB, c'est la même chose. Plus de la moitié se fait dans une douzaine de villes. 90% du territoire, lui, est en dehors de l'économie. Et donc, parce que bien sûr, il reste quelques usines quand même périphériques, heureusement, mais l'essentiel des petites villes et de tout le tissu industriel local a été entièrement démantelé.
Voilà. Et il est urgent aujourd'hui pour vous, Pierre Vermeeren, de mettre en place des politiques volontaires aussi de transfert d'activité à l'extérieur des métropoles. Ça nous rappelle quelque chose. Paris et le désert français, 1957, on y retourne.
Sous les marronniers du boulevard Jean Jaurès, le drapeau de la sous-préfecture salue le fronton du palais de justice. Et dans le faubourg, le collège de jeunes filles regarde le nouvel hôpital. N'est-elle pas le symbole de la prospérité et du bonheur, cette petite cité dont bien des grandes villes enviraient les anciens monuments et même l'équipement moderne. Un avenir sans problème, semble-t-il, s'ouvre à ce jeune couple qui n'a que 2 pas à faire pour aller de la mairie à l'église. Pourtant, derrière les fenêtres de l'hôtel de ville, le conseil municipal est inquiet. Malgré les apparences, Gourdon s'endort, dépérit. Un lent mais inexorable recul démographique l'a fait aujourd'hui descendre au-dessous de 4000 habitants. Un équilibre traditionnel s'est rompu. Que glorifiait, derrière le buste de Marianne, cette fresque naïve, l'équilibre entre la charrue et l'enclume, les champs et l'atelier. Le dernier des 7 charrons de Gourdon ne travaille plus qu'un jour par semaine. Aujourd'hui, le complément indispensable de l'agriculture ne peut plus être l'artisanat, mais l'industrie. Gourdon n'en possède aucune, celle du tourisme s'ébauche à peine.
Voilà, le village de Gourdon, dans le Quercy, extrait du documentaire Paris et le désert français 1957 de Linhart et Jézéquel, Pierre Vermeeren. Vos solutions, celles que vous proposez dans cet essai, La France qui déclasse chez Talendier, sont finalement pas si différentes. Hein. Repenser l'agriculture aujourd'hui, réimplanter des industries.
Bio, c'est pas idiot.
Ça colle, c'est ça. Quelle est votre
non,
quelles sont vos pistes?
Après, c'est le boulot de notre classe politique. Simplement, on peut imaginer qu'il y a deux secteurs, il y a deux types d'approches. On est en France dans un pays où il y a une administration très importante. Donc, le mouvement de décentralisation qui s'était fait dans les années 60, justement pour lutter contre Paris et le désert français, pourrait permettre de décongestionner l'Île-de-France et les métropoles, encore une fois une douzaine de sites, vers l'ensemble du territoire. Enfin, on pourrait très bien imaginer que des ministères s'installent, je sais pas moi, le ministère de la pêche à Saint-Brieuc, ça serait peut-être moins idiot que dans le centre de Paris, etc., etc. Bon, on peut démultiplier les exemples, mais au-delà des ministères, tout un tas de services administratifs et peut-être que la sortie d'un million de fonctionnaires des grandes villes vers des villes moyennes permettrait de rebooster localement non seulement le marché immobilier mais aussi tout le secteur scolaire, hospitalier, etc. Toute cette France des services publics est à la peine en dehors des très grandes villes. Ça, c'est de l'action directe des pouvoirs publics. D'ailleurs, certains éléments ont été évoqués récemment. Et puis après, il y a la question de la politique industrielle. La question de la politique industrielle, c'est beaucoup plus compliqué parce que on est dans une économie ouverte, internationalisée. Manifestement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas dans le domaine de l'agriculture. Hein. Non seulement on a perdu pratiquement les trois quarts des emplois agricoles depuis 40 ans, mais ça continue, ça va s'accélérer. Donc soit ça s'accélère et on nous présente les choses comme allant de soi, étant naturel, soit il y a une réponse ou des réponses qui sont faites, que ce soit dans le domaine agricole ou dans le domaine industriel. Il y a peut-être des secteurs à reconvertir et notamment avec la révolution écologique et bio qui annonce, ça pourrait être l'amorce de cette reprise en main. On pourrait avoir imaginé un autre modèle beaucoup plus décentralisé, où il y a plus de liberté qui est donnée aux entrepreneurs. Apparemment, en France, ça marche avec difficulté. Peut-être parce qu'on a été très habitué à avoir des politiques et on attend que ça tombe du ciel. On voit bien que dans une monarchie, dans une république un peu monarchique,
jacobine, ouais.
On attend tout du président de la République. C'est un peu curieux. Mais enfin, si la situation est celle-là, à ce moment-là, il faut que le centre décide un certain nombre de choses. Les collectivités locales, elles sont impuissantes face au système de l'économie libéralisée européenne, c'est assez clair. Donc peut-être que seul l'État est en capacité. Moi, c'est pas mon domaine, si vous voulez. Simplement, je vois que d'autres pays qui sont très proches de nous s'en sortent beaucoup mieux. Donc il y a des raisons. Faut peut-être plutôt que de dire que d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne ont d'énormes problèmes et ont beaucoup de pauvres, il se trouve que nous aussi, on a beaucoup de pauvres. On les voyait pas, maintenant on les voit.
Voilà. Et comme Christophe Guillouis qui parle de cessation des élites, vous parlez de déresponsabilisation des élites aussi dans la tâche sociale qui leur était jusqu'ici attribuée. Comme Jérôme Fourquet qui parle d'archipélisation, vous parlez-vous de segmentation de cette France-là? En un mot, la suite de l'histoire, elle va s'écrire comment?
La suite de l'histoire...
Si on ne réagit pas vite
si vous voulez, ce qui a commencé va continuer, parce que au fond, c'est pas en saupoudrant quelques milliards à gauche et à droite que les choses vont changer, parce que le mal est très profond, il vient de très loin, et donc soit des décisions... Pour moi, c'est le travail d'une génération, c'est pas le travail d'un gouvernement, c'est le travail d'une génération, mais encore faut-il le vouloir, tout est dans la volonté politique.
Merci beaucoup, Pierre Vermeeren. La France qui déclasse les gilets jaunes, une jacquerie au XXIe siècle, votre essai vient de paraître chez Talendier. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table culture, avec l'aide précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Nasser Moussaoui. Très bel après-midi sur France Culture.